Vatican News, le journal, il est 8h30.
L'Amazonie brûle et s'impose dans l'actualité alors que le sommet du G7 s'ouvre ce samedi à Biarritz. Le destin de la plus grande forêt tropicale du monde et la transition écologique seront au cœur des discussions. Au Brésil, l'Église ne cache pas son inquiétude devant le ravage de la déforestation. Nous entendrons l'archevêque de Campo Grande dans le sud du pays. Parmi les nombreux dossiers discutés par les 7 premières puissances de la planète, le nucléaire iranien, un point de friction avec les États-Unis de Donald Trump. Emmanuel Macron a reçu hier à Paris le chef de la diplomatie iranienne. À la une de ce journal également, le patron de la Banque centrale américaine qui ne baisse pas ses taux, provoquant la colère du président Donald Trump. Nous reviendrons aussi sur la route migratoire dans la Manche, beaucoup moins médiatisée que la mer Méditerranée. Et puis dans notre dossier, gros plan sur la lutte contre les inégalités qui doit être l'un des grands thèmes du G7 de Biarritz. Les ONG doutent fortement du bien fondé de ce cadre pour s'attaquer aux racines du problème. Nous en parlerons avec l'un des responsables du CCFD Terre Solidaire.
Le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la ville de Biarritz, dans le sud-ouest de la France, en état de siège. Le sommet du G7 s'ouvre donc ce samedi sous très haute sécurité. Des milliers de policiers quadrillent depuis plusieurs jours la cité balnéaire où sont attendus notamment Donald Trump ou encore Boris Johnson, le nouveau premier ministre britannique. Cette nouvelle réunion des 7 pays les plus riches de la planète devrait être l'occasion de faire avancer certains dossiers géopolitiques mais aussi économiques. Le président français Emmanuel Macron a souhaité que la question de l'écologie soit tout en haut de l'agenda alors que l'Amazonie est dévorée depuis plusieurs jours par les flammes. L'Église brésilienne en particulier ne cache pas sa grande inquiétude devant les milliers de kilomètres carrés de forêt paraît-il enfumée. Monseigneur Dimash Lara Barbosa est l'archevêque métropolitain de Campo Grande dans le sud du Brésil. Pour lui, une seule solution pour éviter une telle catastrophe, revenir à une agriculture plus raisonnée.
Selon les experts, le facteur qui explique le mieux l'augmentation du nombre de points chauds dans cette région est la déforestation. Dans ce contexte, les organes de contrôle jouent un rôle de premier plan. Alors il est vrai qu'il y a des voix qui défendent le développement de la région à travers l'exploitation des sous-sols, des forêts, à travers l'avancement de l'agriculture. Alors tout cela peut certes contribuer au développement de la région, mais à quel prix? Les initiatives doivent être guidées par une éthique, disons, écologique, par une responsabilité socio-économique et environnementale. De plus, nous ne pouvons pas oublier la dignité et la noblesse des écosystèmes de la région. Je me souviens que le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, parle du système pervers de la propriété et de la consommation. Cette expression est impressionnante. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens de promouvoir une écologie intégrale, respectueuse de l'environnement, respectueuse des peuples autochtones et respectueuse de la terre elle-même.
L'archevêque de Campo Grande, au sud du Brésil, interrogé par Alessandra Andressa Collet de la rédaction brésilienne de Radio Vatican. Et le président brésilien Jair Bolsonaro a décidé d'envoyer l'armée dans les zones les plus touchées de la forêt. Il a également expliqué que ces feux ne pouvaient servir de prétexte à des sanctions internationales. Réponse à Emmanuel Macron qui a annoncé hier que la France ne signerait pas le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, affirmant que le président Bolsonaro avait menti sur ses engagements environnementaux. Parmi les autres questions qui seront discutées au G7, celle de la lutte contre les inégalités, nous y reviendrons en détail dans notre dossier à la fin de ce journal. Ce sommet de Biarritz, comme ces dernières éditions, ne devrait pas manquer d'étaler les différences de vues sur de nombreux dossiers, en particulier avec le président américain Donald Trump. Avant de s'envoler pour la France hier, celui-ci a de nouveau menacé Paris d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les vins français en représailles à la taxe décidée par la France contre les géants du numérique. Différends qui ont également lieu sur les grands dossiers internationaux comme le nucléaire iranien. La France veut sauver l'accord de Vienne de 2015. Donald Trump s'y oppose fermement. Cet accord avait permis, je vous le rappelle, une levée des sanctions internationales contre l'Iran, contre la promesse de la République islamique de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Mais le président américain était sorti avec fracas de l'accord en 2018, rétablissant les sanctions contre Téhéran. Dans ce contexte, Marine Henriot, Emmanuel Macron a hier rencontré le chef de la diplomatie iranienne à l'Élysée.
Oui Olivier, il faut dire qu'il ne reste que des miettes de l'accord de Vienne si durement obtenu il y a 4 ans, mais les Européens veulent y croire, la France en premier. Emmanuel Macron veut faire des propositions pour tenter de ramener Téhéran Téhéran au respect de l'accord. Il en a discuté hier avec le chef de la diplomatie iranienne. Alors les propositions vont dans la bonne direction, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, avant de préciser qu'il restait cependant du chemin à faire. L'Iran aimerait en fait des mesures européennes pour passer outre les sanctions américaines, ce à quoi l'Europe est un peu frileuse. La tâche est lourde pour les Européens, il s'agit de recoller les morceaux entre un Iran échaudé et des États-Unis inflexibles sur ce sujet. Alors depuis 2 mois, Emmanuel Macron fait la navette entre les présidences des deux pays, au point de tendre les Américains. Je sais bien que la France veut bien faire, mais personne ne parle pour les États-Unis, à part les États-Unis eux-mêmes, tweetait Donald Trump début août. Mais les Européens pourraient trouver un nouvel allié en la personne de Boris Johnson, le nouveau premier ministre britannique, plutôt proche de Donald Trump, a confirmé Olivier que Londres continuerait à soutenir l'accord.
Merci Marine Henriot. C'était un point de crispation entre la Chine et le Royaume-Uni. L'employé britannique de l'ambassade de Hong Kong a été libéré. Il vient de regagner l'ex-colonie britannique, a-t-on appris ce matin. Le gouvernement chinois l'avait arrêté alors qu'il avait traversé la frontière pour un rendez-vous d'affaires, l'accusant d'avoir enfreint une loi sur la sécurité publique. Avant de s'envoler pour la France, Donald Trump a exprimé sa colère sur Twitter, son moyen de communication préféré, colère contre le président de la Réserve fédérale. Les pressions exercées par le président sur le patron de la Fed restent sans effet. Jérôme Powell, en effet, ne semble pas prêt à baisser les taux d'intérêt, malgré les injonctions de la Maison-Blanche. Le président de la Banque centrale s'est exprimé hier matin depuis le Wyoming et loin de plier devant Donald Trump, il semble le rendre responsable des incertitudes qui pèsent sur l'économie américaine. Loïc Loury.
Face aux tensions commerciales, la banque centrale n'a pas de mode d'emploi tout prêt. Voilà ce qu'a déclaré Jérôme Powell face à des banquiers centraux et économistes du monde entier. Pour le patron de l'institution, les perspectives économiques américaines restent favorables, mais la situation internationale s'aggrave, notamment, dit-il, à cause des incertitudes commerciales et en particulier du bras de fer actuel entre les États-Unis et la Chine. Pékin vient d'ailleurs tout juste d'annoncer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations américaines. Donald Trump, lui, a une toute autre analyse de la situation. Chaque jour, ou presque, le président s'en prend à la Fed, accusé de désavantager les États-Unis à cause du maintien de taux d'intérêt élevés. Le dollar est fort, la Fed est faible, disait-il hier encore sur Twitter. Les marchés, eux, devront attendre la réunion du 18 septembre pour savoir si ces fameux taux connaîtront une nouvelle baisse après celle décidée le mois dernier. En attendant, eh bien, ils observeront avec fébrilité la courbe des taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain. Elle s'est inversé 3 fois en à peine 8 jours, un signe considéré comme annonciateur d'une récession à venir. New York, Loïc Loury, Vatican News.
Un mot de Syrie où la tension monte près de la province d'Idleb entre Damas et la Turquie. Les forces du régime syrien qui progressent dans la province d'Idleb ont encerclé hier un poste d'observation de l'armée turque, l'un des 12 postes de l'armée turque près de cette région du nord-ouest du pays, dernier bastion des rebelles et djihadistes. Ankara dispose de plusieurs postes donc dans cette région. Le président turc Recep Tayyip Erdogan doit se rendre à Moscou mardi prochain pour notamment évoquer le dossier et les tensions avec Damas, la Russie fidèle alliée de Bachar al-Assad qui poursuit ses raids aériens dans cette province d'Idleb. La Manche est depuis plusieurs mois une route migratoire de plus en plus fréquentée, beaucoup moins médiatisée que la mer Méditerranée. Plus de 900, dont au moins 80 enfants, 900 migrants, ont pris le risque de traverser la Manche à bord de petites embarcations depuis le début de cette année. 65 d'entre eux ont été renvoyés vers des pays de l'Union européenne. La nouvelle ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a annoncé qu'elle aurait la semaine prochaine des entretiens avec son homologue français après l'arrestation il y a 2 jours de 61 migrants illégaux, dont 10 enfants au large des côtes du sud de l'Angleterre. Les précisions à Londres de notre correspondant Jean Jaffré.
Selon le ministère de l'Intérieur, 4 embarcations ont été interceptées au large des côtes du Kent. Une 5e avait réussi à atteindre une plage dans le Sussex. Par ailleurs, les autorités françaises ont saisi 2 embarcations à bord desquelles se trouvaient 19 adultes, 10 enfants et un bébé. Une porte-parole du ministère de l'Intérieur a rappelé que des gangs criminels faisaient prendre d'énormes risques en proposant, contre paiement, de traverser l'une des voies maritimes les plus fréquentées dans le monde. La plupart des personnes arrêtées sont de nationalité iranienne, d'autres affirment être originaires du Koweït, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Boris Johnson, en prévision de possibles législatives anticipées, a fait une série de promesses de nouveaux crédits, notamment pour l'éducation, la santé et les infrastructures, pour séduire l'électorat de gauche. Parallèlement, en accord avec la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, la réduction du nombre d'entrées de migrants sera une priorité après le Brexit. La ministre a annoncé cette semaine la fin de la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne après le 31 octobre. Les organisations caritatives qui aident les demandeurs d'asile ont rappelé lors de la prise de fonction de Priti Patel qu'elle avait voté toutes les lois anti-immigration sous le gouvernement de Theresa May. Long, Jean Jaffray, Vatican News.
Le sommet du G7 s'ouvre donc ce matin à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Un sommet au cours duquel le président français Emmanuel Macron souhaite mettre sur la table de nombreux sujets avec les principales puissances de la planète, nous l'avons vu, à commencer par la lutte contre les inégalités et la crise écologique. Hier après-midi, le chef de l'État français recevait à l'Élysée des grandes entreprises qui s'engagent pour lutter contre ces inégalités. Une discussion à laquelle n'ont pas été conviées les ONG. Des ONG qui d'ailleurs s'estiment tenues à l'écart de ce sommet du G7. 32 d'entre elles, membres du réseau Action Climat, ont décidé de boycotter cette réunion de Biarritz, dénonçant une mise à l'écart. Ce G7 est-il le cadre pour s'attaquer réellement à la racine des problèmes quand on parle d'inégalité ou de crise écologique? Les ONG en doutent. Grégoire Niaudet est chargé de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire en charge du partage des richesses.
Il y a une part de communication. Alors, c'est certes, c'est là aussi où il y avait une espèce d'hypocrisie, puisqu'on... On annonce un G7 pour réduire les inégalités. Déjà, on réunit parmi les pays les plus riches de la planète pour parler inégalités, alors que ces pays-là mettent en place des politiques basées sur le néolibéralisme qui engendrent des inégalités et qui, pour la plupart de ces gouvernements, n'entendent pas remettre en question ces politiques. Ensuite, on fait appel à ces acteurs du secteur privé qui sont pleinement des acteurs pleins entiers de ce système économique basé sur la recherche de profits à court terme et qui n'ont pas dans leur modèle d'organisation l'obligation de tenir compte de leur environnement et de l'impact de leurs activités à la fois sociales mais aussi environnementales et aussi sur le futur.
Le fait que plusieurs ONG aient annoncé donc de boycotter ce G7 à Biarritz, le fait aussi qu'il y aura un contre-sommet en Espagne comme il y a depuis des années des contre-sommets G7 ou G20, qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de l'action publique pour lutter efficacement contre les inégalités et la crise écologique notamment?
Cela dit qu'il est important que les responsables politiques reprennent vraiment leur rôle de défenseur de l'intérêt général et qu'il faut aussi remettre en question une espèce de croyance qu'il peut y avoir en se disant que la défense d'intérêts privés, la défense des intérêts des grandes entreprises favorise l'intérêt général, ce qui on se rend bien compte que ça ne marche pas. Et que un système économique basé sur la recherche de profits à court terme et sur l'exploitation des énergies fossiles, ce n'est pas l'avenir et il faut absolument le changer fondamentalement et très rapidement. On voit encore ces jours-ci, on a le poumon de la planète qui est en train de partir en fumée et cet incendie, il est aussi dû à ces mécanismes économiques d'exploitation des ressources sans fin pour satisfaire des intérêts privés et la recherche de profits à court terme.
Sur le front de la lutte contre les inégalités et sur le partage des richesses donc, dont vous vous occupez, quelle est un peu la dynamique actuelle de ces dernières années? Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que il y a aussi quand même des signes positifs, des endroits où cela bouge, où il y a des leviers?
Les leviers, vous avez cité le contre-sommet de la société civile. Les idées, il y en a beaucoup qui sont là sur le partage des richesses, sur la recherche d'alternatives, sur comment pourraient fonctionner nos sociétés, notre système politique, notre système économique. Maintenant, au niveau politique, il y a beaucoup d'endroits où on peut penser que c'est bloqué, que ce soit au niveau du G7 et du G20, les dossiers sont dans des impasses. Sur le front de l'évasion fiscale, ça concerne des sommes monumentales qui pourraient servir ces transitions écologiques et sociales et lutter contre les inégalités. On avait eu quelques avancées politiques importantes il y a quelques années et là on est aussi encore dans des impasses. On ne reprend pas le système dans son ensemble. Ensuite, il y a des sujets d'espoir, il y a des motifs d'espoir. On voit que la France a mis en place en 2017 la loi sur le devoir de vigilance qui concerne les grandes entreprises françaises pour qu'elles respectent les droits humains et l'environnement partout où elles ont des activités. Beaucoup de pays européens sont en train de discuter pour mettre en place une loi similaire. Donc là-dessus, il faudra avancer. Et on attend des dirigeants des pays du G7 qu'ils se réengagent dans les processus légitimes tels que ceux de l'ONU pour faire bouger les choses.
Voilà, Grégoire Niodet, chargé de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire en charge du partage des richesses, était ce matin l'invité de la rédaction. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera à 13h. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau week-end.